Aujourd'hui, place au CERTAM. Le CERTAM étant le centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants. Et pour le représenter, ce CERTAM, Fernando Pinto da Silva. Rien que lui, tout seul. Bonjour Fernando.
Bonjour Benjamin.
Merci d'être des nôtres. Alors aujourd'hui, revue de nouveautés puisque vous êtes allé au Season pour nous. C'était à San Diego. Ça a commencé un petit peu avant le 27 mars, c'est ça
hein? Alors, le 27 février.
Oui, parce que si ça avait commencé avant le 20, un petit peu après le 27 mars ou un peu avant, il faudrait que vous y soyez. Quoi.
C'est ça l'idée.
Voilà.
Alors, on va peut-être d'abord expliquer ce que c'est que le Season, parce que c'est vrai que nous, on est là, on dit Season comme si on savait tout ce que c'était. C'est, je pense, sans trop me tromper, le plus gros salon consacré aux aides techniques au niveau mondial. C'est un salon qui se réunissait cette année, enfin qui était organisé cette année, pour la 28e fois. Donc ça se déroule à San Diego, en Californie, à en gros 15 km de la frontière mexicaine, pour situer un petit peu la chose à nos auditeurs. C'est un salon qui réunit à la fois des exposants qui vont montrer leur matériel, leurs nouveautés, et également des conférenciers qui vont faire un certain nombre de conférences sur des sujets donnés. Et alors cette année particulièrement, c'était touffu. Mais alors vraiment, c'est-à-dire que on avait en gros 3 jours de conférences, donc du 27 février au 1er mars, où on avait, rendez-vous compte, Benjamin, jusqu'à 10 conférences sur le même créneau horaire à chaque fois.
Ah bah oui, alors là, il faut se partager. Hein. Ou alors vous êtes parti avec une équipe pléthorique ?
Non, je suis parti avec Jean-Pierre Carpanini, que nous connaissons bien ici.
Mais qui vaut bien une équipe pléthorique et lui tout seul.
Voilà, absolument. mais c'est vrai que même à deux, se partager les confs, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais vous avez intérêt à vous faire sacrément votre programme avant.
Oui, c'est ça.
D'autant que, pour compléter un peu le tableau, donc le salon des exposants et les conférences, et en plus, il y a toutes les rencontres qu'on fait là-bas. C'est-à-dire que, comme je le dis de façon un peu humoristique, c'est une espèce de grosse transhumance annuelle de tout ce que la planète peut compter d'aides techniques et de gens qui travaillent autour des aides techniques et de la déficience visuelle. Donc du coup, c'est toujours l'occasion de rencontrer des tas de gens qu'on ne voit jamais et qui pour autant travaillent dans le même secteur que vous, parfois même dans la même ère linguistique. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer un petit peu mon homologue à l'Institut Nazareth et Louis Braille, donc au Québec, qui fait exactement le même travail, c'est-à-dire de faire de l'évaluation de produits, qui fait aussi de la production numérique à destination d'une bibliothèque. Donc voilà, c'est un peu tout ça le Season, en fait.
Finalement, vous avez dû vous y mettre, vous avez dû prendre un sacré temps déjà pour organiser déjà votre voyage, savoir qui vous alliez rencontrer, quelles conférences d'ores et déjà vous alliez rater.
alors effectivement, oui, ça fait partie de la préparation. Il y a une partie de cette préparation qu'on a pu faire, bien évidemment, avant de partir, et une autre qu'on a faite sur place aussi, au gré des aléas, puisqu'évidemment il y a toujours des choses qui sont modifiées, des conférences annulées, des fabricants qui arrivent un peu plus tard que prévu, etc. Mais effectivement, oui, c'est le genre d'événement. Voilà, sur 3 jours de conférences, il y avait également 2 jours de pré-conférences, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure.
Donc c'est pas, ils font pas les choses à moitié, hein.
Ah non,
conférences, pré-conférences, il n'y a pas les post-conférences après, non?
D'une certaine façon, si, c'est pas que faux, il y avait effectivement mais c'était des étudiants qui venaient présenter des projets liés au handicap et aux aides techniques. Donc là, des projets d'étudiants qui étaient présentés le samedi matin. Donc c'est pas complètement faux. Ça s'appelait pas post-conférence, mais ça y ressemblait.
Mais ça y ressemblait bien.
De toute façon, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est l'occasion réellement sur une semaine très lourde et très chargée de faire un certain nombre de choses et de partager l'information.
Si vous deviez dresser le bilan de ce salon, et c'est plutôt positif, ça a pas été des conférences pour rien. On a montré de vraies nouveautés.
Pour moi, c'était très positif, en ce sens où, encore une fois, le but, c'est d'échanger, et je trouve que ça a été l'occasion d'échanger énormément avec beaucoup d'acteurs. En termes de nouveautés, on verra dans l'émission, il y a eu des choses, quelques évolutions. J'ai pas trouvé personnellement qu'il y avait de révolution, c'est-à-dire que je suis pas reparti en me disant « Ah là, il y avait un produit que j'attendais, moi, en tant qu'usager non-voyant depuis des années, et c'est génial. »
Et que je n'ai pas rencontré jusqu'alors.
Tout à fait, mais il y a quand même beaucoup d'évolutions, beaucoup de partage, et sincèrement, rien que ça, c'est absolument énorme.
Bon, donc il y a des choses forcément à dire sur ce CISON qui a duré combien de temps donc en tout avec les préconférences, les conférences
et... En tout une semaine en fait, une semaine, enfin six jours pleins.
Une semaine chargée.
Voilà, tout à fait.
Hein, le temps aussi, à peine le temps quand même de goûter le beau temps à San Diego, parce que vous me le disiez, vous avez quand même sacrément vécu une belle déperdition de chaleur. Hein.
Ah bah c'est-à-dire qu'effectivement, hors antenne, je vous confiais tout à l'heure qu'on est passé de 29 degrés à moins 5 la semaine dernière. Donc c'est sûr que ça fait un petit contraste que les auditeurs doivent entendre d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'ai encore un petit quelque chose là.
Bon, j'espère pour autant que vous n'allez pas vous laisser dépasser par les événements et que des nouveautés, on va en parler dans un instant. Puis si vous voulez nous prêter main forte, n'hésitez pas. Hein. L'antenne vous est ouverte jusqu'à maintenant.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants, est avec nous par la voix de Fernando Pinto da Silva, qui compte bien nous faire partager, les nouveautés qu'il a vues lors de ce CISON qui a eu lieu à San Diego le mois dernier. Alors, un petit peu de matériel, vous le disiez, un peu de nouveautés à proprement parler, mais tout de même de belles évolutions, je vous ai bien entendu.
C'est ça, ce que je disais, c'est beaucoup de nouveautés, mais pas de révolutions dans les nouveautés, mais plutôt des évolutions de matériel ou des choses qu'on attendait. Je vous propose qu'on commence par parler un petit peu des plus gros du secteur qu'on connaît déjà un petit peu, comme Freedom Scientific, par exemple. Donc Freedom Scientific, c'est pour ceux qui ne seraient pas le fabricant du logiciel JAWS, qui est donc sans doute la revue d'écran la plus utilisée par chez nous en France par exemple, donc qui permet aux non-voyants d'accéder notamment à un environnement Windows et à certains logiciels. Donc là ils présentaient la nouvelle version ainsi que les versions à venir. Ils ont déjà une version alpha de JAWS 15 qui entre autres permet de gérer les écrans tactiles sous Windows, puisqu'on sait que c'est quand même une tendance assez importante. C'est vrai que du coup nous à l'association Valentin Huy au sein du CERTAM, ça fait partie de nos préoccupations de nous dire mais comment là on va accompagner cette évolution du marché qui même sous Windows va de plus en plus vers le tactile. Et donc là Freedom Scientific nous a fait une présentation assez bien faite de ce qu'ils étaient en train de faire, de gérer les claviers virtuels sous Windows pour permettre à une personne non-voyante de pouvoir continuer à utiliser son environnement Windows tel qu'elle le connaît aujourd'hui, mais sur des machines qui elles seront avec des interfaces tactiles.
Présentation bien faite, ça veut dire que démonstration convaincante, ça veut dire qu'effectivement l'évolution, évidemment, elle est utile, mais de surcroît, elle est plutôt bien faite.
L'évolution, en tout cas de ce qu'on en a vu, hein, c'est toujours difficile, mais de ce qu'on en a vu, semblait commencer à être gérée convenablement. Donc on en reparlera sans doute l'année prochaine.
À suivre.
Quand on verra la version sortie. Mais en tout cas, ça semblait prometteur, voilà, pour le dire comme ça. Avec aussi, la sortie de nouvelles plages braille chez eux, notamment une plage braille en 80 caractères, qui était attendue parce qu'ils n'avaient pas ça dans leur gamme. Donc on va voir ce que ça va donner. Chez les autres grands fabricants, on peut peut-être parler de Humanware, qu'on connaît bien en France, qui est en plus une entreprise canadienne, québécoise. Les gens connaissent bien ici, notamment des matériels de lecture qui s'appellent les Victor Reader, et ils présentaient là donc leur nouveau lecteur de livres, un lecteur portable qui s'appelle le Victor Reader Stream, dans sa nouvelle version avec de nouvelles synthèses vocales, celles dites d'a cappella.
Elles étaient pas mal les synthèses vocales jusqu'alors, hein. Des Victor, elles sont plutôt très agréables. Hein.
Tout à fait. Donc là ils ont
très
fait un choix justement donc de la même façon que sur les gros lecteurs Victor qu'on était déjà venu présenter, il me semble. Ils avaient déjà mis des voix a cappella, et donc là sur les petits lecteurs Victor qu'on peut justement trimballer avec soi, ils ont mis la même voix, ce qui n'était pas le cas effectivement sur le modèle précédent. Donc là il y a un nouveau lecteur qui va arriver dont on vous parlera je pense d'ailleurs assez vite, puisqu'il va, sauf erreur de ma part, sortir en France à la fin du mois, sans doute courant du mois d'avril, dans sa nouvelle version. Voilà pour Humanware, qui présentait évidemment, comme Freedom Scientific d'ailleurs, du matériel de base vision, mais là, si je signale pas de nouveauté, c'est qu'il n'y en a pas réellement. Mm-hmm. Un autre gros acteur du marché, c'est Optelec, que les gens connaissent peut-être sous les dénominations Timan ou Alvin. C'est la même marque, mais qu'on retrouve sous le vocable Optelec, qui est une boîte néerlandaise, et qui, eux, cette année, présentaient comme grosse nouveauté un téléagrandisseur 24 pouces. Donc là, vraiment un outil pour les malvoyants, avec un logiciel de reconnaissance de caractère intégré, c'est-à-dire que non seulement ça va agrandir le texte que vous allez du coup lui donner en capture, mais vous allez même pouvoir faire lire ce texte par une synthèse vocale intégrée à la machine. Donc c'est vrai que même pour une personne malvoyante qui du coup a pas envie de se fatiguer les yeux à lire le texte elle-même, elle peut à un moment donné demander à la machine qui a fait apparaître le document sur écran de le lire avec une synthèse vocale. C'est pas une nouveauté en ce sens où il y a déjà d'autres matériels qui le faisaient sur le marché chez des concurrents. Par contre, chez Optelec, c'en est une, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de produit dans cette gamme chez eux, par exemple.
D'accord.
Voilà pour les plus...
Les plus marquantes, les nouveautés les plus marquantes.
Les plus gros du secteur. Non, après, il y a plein d'autres nouveautés chez d'autres fabricants, peut-être un peu moins gros en taille, on va dire. Je pense notamment à des acteurs comme HIMSS, qui sont coréens, qui chez nous en France sont distribués par Visiol, qui ont des bloc-notes que les gens connaissent sous les dénominations ByteSense, où là il y avait notamment de grosses évolutions logicielles sur ces bloc-notes Braille qui permettent de gérer YouTube, donc pour de la vidéo, Dropbox pour pouvoir stocker ces documents en ligne. Et donc ça, c'était les grosses nouveautés chez eux en termes de bloc-notes Braille, effectivement. Des Japonais qui étaient là également, donc nos camarades de Nippon Telesoft, qui je crois c'est chez nous sont distribués par Access Solutions, qui eux présentaient des bloc-notes, le bloc-notes en 16 caractères qui s'appelle la Mini Seika, et sans doute un proto de ce qui sera un bloc-notes 40 caractères qui n'est pas encore commercialisé mais sur lequel ils sont en train de travailler. Donc là, vous voyez, le Seasun, c'est ça aussi, c'est parfois montrer ce qu'on a dans les cartons même si c'est pas complètement finalisé.
Oui, c'est une forme de teasing, quoi.
Tout à fait.
On dit ça, c'est à suivre et on en entendra parler.
Absolument, Benjamin.
Le CERTAM est avec nous, représenté par Fernando Pinto da Silva, qui est venu nous rendre compte de ce qu'il a vu lors du dernier salon qui s'appelle le Seasun, et qui se déroulait à San Diego, aux États-Unis le mois dernier. On en reparle après.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
C'est Fernando Pinto da Silva qui est le porte-parole du CERTAM aujourd'hui, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants, et qui est venu nous parler des dernières nouveautés qu'il a pu voir et qu'il a pu apprécier lors du dernier Seasun qui s'est déroulé le mois dernier à San Diego. Fernando.
Alors, pour continuer un petit peu effectivement sur le salon des exposants, on parlera tout à l'heure des conférences. D'autres choses qui étaient exposées, côté applicatif par exemple, il y avait donc la société Looktel, qui est une société américaine qui fait des logiciels pour système iPhone et iPad, notamment bien connu pour des détecteurs d'argent. Alors c'est vrai que nous, peut-être que ça nous parle moins.
Déjà, non, ça
Europe,
nous parle beaucoup moins parce que déjà d'argent, on n'en a pas. Hein, donc...
non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, nous, la chance d'avoir une monnaie dont les billets reflètent en gros une valeur faciale. C'est-à-dire que le billet de 5 euros n'a pas la même taille que le billet de 50.
Et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
Et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays. Hein. C'est le cas au Brésil, c'est le cas, pour ce que j'en sais en tout cas, c'est le cas vraiment dans plein de pays. Et donc, ils ont fait un petit logiciel qui permet, via la caméra de l'iPhone, en soulevant l'iPhone, de détecter la valeur du billet, ce qui est assez pratique.
J'allais dire pas con.
Non. Alors, il y a d'autres applications qui le font aussi. Hein. D'ailleurs, on parle beaucoup actuellement d'une application qui s'appelle TapTapSee, que je conseille vivement à nos auditeurs si vous avez un iPhone ou un iPad, pour une personne non-voyante ou très malvoyante. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que cette application va vous permettre, lorsque vous filmez quelque chose, lorsque vous pointez un objet, quelqu'un, d'avoir une description de la chose, qui est assez inconcevable, mais ça marche très bien.
Ah oui.
La seule limite pour le moment, c'est que ça n'est disponible qu'en anglais. Donc la description, elle ne vous est restituée qu'en anglais.
Il faut un traducteur, quoi.
Voilà.
Déjà, on se fait décrire la chose, puis
il faut comprendre un peu la chose. Mais disons qu'en tout cas, voilà.
Donc, c'est une belle avancée, cela dit.
Tout à fait. Et d'ailleurs, cet acteur américain dont je vous parle, Looktel, a une application équivalente qui, elle, est payante, contrairement à TapTapSee, qui s'appelle Looktel Recognizer, qui sur l'App Store français est disponible aux environs de 9 euros à peu près. Donc ça, c'était donc une des applications qui était exposée sur le salon des exposants. On a vu aussi d'autres types d'applications, notamment pour faciliter la communication pour les publics sourds aveugles. Alors ça fait d'ailleurs partie des publics qu'on évoque assez peu à ce micro. Donc peut-être que ça va être l'occasion d'en toucher deux mots. C'est vrai qu'on parle beaucoup de non et de malvoyance. On parle assez peu des cécis sourds qui, évidemment, cumulent un peu les difficultés de communication.
Même beaucoup, hein, oui.
Voilà, et donc là, l'idée, c'était à travers une application iPhone de permettre à ces publics cécis sourds de communiquer avec leur entourage de façon assez simple. Donc ça fait partie des quelques applications qu'on a pu voir dans les allées, des choses qui étaient.
Mais ça, c'est pas encore disponible en France, par exemple. Pas de possibilité de.
Non, je
pas
crois
dans l'instant.
Que c'est pas francisé.
D'accord.
Il y a des choses qui peuvent exister sur des bloc-notes braille en français, mais c'est pas du coup de l'applicatif. C'est ça va être une fonction intégrée dans des bloc-notes comme ceux de chez Humanware d'ailleurs,
d'accord,
comme l'Apex en l'occurrence.
Donc on va attendre encore un peu, mais ça veut dire que si ça existe déjà en anglais, ça va avancer, ça va
voilà,
arriver.
Voilà, c'est ça. Et toujours côté applicatif, même si on revient un petit peu au matériel, mais par la petite porte entre guillemets, il y avait quand même Microsoft qui exposait eux aussi. Et qui du coup faisait des démonstrations de leur lecteur d'écran intégré qui s'appelle Narrator, et qui faisait ces démonstrations non pas sur des ordinateurs comme ceux qu'on connaît depuis des années et des années, mais sur des tablettes équipées de Surface ou Surface, pour le dire bien en français. Voilà.
Mieux.
Oh bah les deux existent. Alors du coup maintenant je me méfie à chaque fois je dis les deux parce que lorsque je dis Surface on me dit tu veux dire Surface. Oui c'est ça. Oui. Voilà donc du coup voilà c'est un système d'exploitation pour tablette et dans sa version qu'on va qualifier de professionnelle, il est possible du coup de faire un certain nombre de choses et donc il faisait des démonstrations du narrator entre autres dessus voilà pour montrer qu'il était quand même possible d'avoir une couche d'accessibilité minimale quand on utilisait ce genre de choses.
Et ça veut dire que ça peut être valable sur toute tablette qui n'est pas évidemment une tablette Apple parce que dans ces cas-là on a le logiciel adéquat, il n'y a pas de problème.
Ça n'est valable que sur les tablettes de la marque Microsoft équipées de Surface ou Surface en version professionnelle et pas en version entre guillemets grand public.
C'est encore donc, très restrictif.
C'est quand même
donc.
Assez restrictif. Pour ce que j'en ai vu rapidement, je pense qu'il y aura matière à laisser évoluer un peu les choses pour qu'on en reparle de façon concrète.
Mais on sait que ça prend forme.
C'est en train de prendre forme. Microsoft sait aussi qu'ils sont en train de se faire déborder par Apple sur ce secteur-là, en tout cas sur l'accessibilité. Ils veulent pas lâcher l'affaire, comme on dit. Ils veulent aussi être présents sur le marché et montrer qu'ils ont des compétences et qu'ils ont un savoir-faire.
Vous avez vu d'autres applis, comme on dit, de l'appli qui fait le beau temps, par exemple, parce que c'est ça aussi.
C'est ça. Alors, l'appli qui fait le beau temps, on l'avait à l'extérieur de l'hôtel, mais sinon, sur les applications en elles-mêmes, non, il y a toujours tout un tas de petites applications qui sont montrées ici et là. Il y avait aussi des applications pour les personnes qui ne peuvent pas parler, puisqu'en fait, le Seeson n'est pas dédié qu'à la déficience visuelle. En tout cas, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a aussi, vraiment beaucoup de choses concernant d'autres types de handicap et notamment effectivement il y avait des applis pour les personnes qui n'ont plus l'usage de la parole et qui n'ont pas eu l'usage de la parole et qui vont pouvoir à travers un dispositif, un iPhone par exemple, faire parler le produit pour eux.
Fernando Pinto da Silva qui n'a besoin de personne pour le faire parler, il a tout ce qu'il faut, hein. Il va nous parler dans un instant des conférences auxquelles il a assisté, conférences du Seeson, il va le faire après une chanson.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants, est avec nous par la voix de Fernando Pinto da Silva, qui a assisté au dernier Seeson à San Diego, en Californie, le Vénard. Hein. Et il a vu plein de choses et il a assisté à plein de conférences.
Oui, alors on va laisser l'aspect effectivement matériel de côté. Pour nos auditeurs, il y aura un dossier qui sera publié sur le site du CERTAM qui sera beaucoup plus exhaustif, forcément, parce que là, il y a des tas de choses que je peux pas évoquer, parce que sinon, on n'aurait pas le temps de parler un peu du reste. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur www.certam-avh.com et je pense que d'ici en gros mi-avril vous aurez un dossier beaucoup plus complet par écrit avec tout un tas de liens qui vous mèneront à toutes ces ressources.
Ce qui fait que quand vous reviendrez, vous pourrez nous le redire tout ça, nous dire que ça y est, les fiches seront élaborées qui pourront nous emmener comme si on y était au dernier Seeson.
Alors pour parler un peu des conférences, donc comme je le disais en introduction, franchement 10 conférences par heure, vous pensez bien qu'on n'a pas assisté à tout. Je vais vous parler de celles qui m'ont personnellement le plus marqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses, mais ça veut dire que celles-là m'ont énormément touché. J'aimerais parler de deux conférences qui ont été d'ailleurs données par les mêmes acteurs, à savoir le RNIB, donc qui est une très très grosse association en Angleterre, un peu l'équivalent de l'AVH en France, mais en beaucoup plus gros et en anglais, et la NFB, donc la National Federation of the Blind, donc aux États-Unis. Pareil, alors c'est comme le RNIB, mais à la dimension américaine, donc voilà, je vous laisse imaginer le poids que ça peut avoir. Et ils ont fait donc un cycle de deux conférences qui étaient très intéressants sur « Aujourd'hui, quand je suis non ou malvoyant, qu'est-ce qui m'est accessible out of the box ?» Ça veut dire en gros, quand je prends le produit, je l'amène chez moi, je le sors de sa boîte et que je l'allume.
D'accord.
Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, ils ont fait tout un tas de comparatifs sur univers PC sous Windows, Mac avec macOS, donc les tablettes dont j'ai déjà un peu parlé tout à l'heure avec voilà les Surface, avec les systèmes iOS pour Apple, avec le système Android sous Google. C'était vraiment très intéressant en ayant basé, je dirais, leur étude sur un panel de testeurs à qui ils ont demandé de faire la même chose. Et en fait, donc c'était quatre actions différentes. La première, c'était aller télécharger un morceau de musique sur une plateforme de musique légale. En l'occurrence, c'était Bohemian Rhapsody de Queen, voilà, qu'on demandait à tout le monde de télécharger et d'acheter. La deuxième, c'était de faire un petit curriculum vitae sous un traitement de texte. La troisième, c'était de concevoir un petit budget familial, en gros sous un tableur. Et la quatrième, c'était d'être en capacité d'aller chercher les prévisions météorologiques pour les 10 jours à venir dans sa région. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment, d'une plateforme à l'autre, les gens y arrivaient plus ou moins facilement. De ce que j'en ai retiré, de toute façon les conclusions doivent être publiées sur le net là d'ici quelques temps, mais de ce que j'en ai retiré, les systèmes de chez Apple étaient quand même sacrément mis en avant, avec VoiceOver, que nos auditeurs, je pense, commencent un peu à connaître, qui est un lecteur d'écran intégré aussi bien pour les ordinateurs Mac que pour les plateformes mobiles de chez Apple sous système iOS.
Quand vous dites qu'ils étaient mis en avant, ça veut dire qu'ils se sont avérés être les plus performants ?
En tout cas, des résultats qui nous ont été présentés, certainement. Oui, puisqu'en face, chez Microsoft, on avait Narrator, donc qui est en gros la couche d'accessibilité fournie par Microsoft. Et pour bien des choses, manifestement, les utilisateurs de Mac s'en débrouillaient sans doute un peu mieux.
Vous le pressentiez, ça ?
Oui, pour être honnête, oui, puisque même si Narrator a quand même évolué, ça c'est indéniable, je dirais, depuis quelques années, mais c'est quand même pas du niveau de l'accessibilité de ce qu'on peut avoir chez Apple.
Apple a pris une sacrée avance, quoi.
Encore une fois, je précise bien que je parle de ce qui est out of the box, c'est-à-dire sans qu'on installe quelque chose en plus.
Oui, on est bien d'accord.
Après, il y a toujours la possibilité, on a parlé tout à l'heure de Jaws, qui est un lecteur d'écran... que beaucoup d'entre nous utilisent depuis des années. Il faudrait aussi parler d'un logiciel qui s'appelle NVDA, qui est un lecteur d'écran gratuit, disponible en français d'ailleurs, et qui lui aussi prend de plus en plus de place, et c'est tant mieux d'ailleurs, sur le marché pour un public qui a des besoins de bureautique, standard, des choses pas forcément très compliquées, accéder à Internet, accéder à ses mails.
Que vous avez retrouvé aussi, Sisson ?
On en a entendu parler, ils n'étaient pas exposants, il n'y a pas eu à ma connaissance de conférence vraiment que sur NVDA, mais on en parlait effectivement comme une alternative sérieuse sous Windows, notamment à Jaws, alors pas pour tout évidemment, Jaws, il y a des choses dans l'environnement professionnel que pour l'instant NVDA ne fait pas, mais en tout cas pour un public, pour le grand public, de dire lorsque les gens veulent un lecteur d'écran pour accéder, comme je le disais à l'instant, au mail, à internet, faire un peu de traitement de texte, c'est sans doute suffisant.
C'est l'élément basique, on va dire.
Et c'est surtout beaucoup mieux qu'un logiciel comme Narrator, qui certes est disponible d'usine chez Microsoft et qui permet de faire un certain nombre de choses, mais qui aujourd'hui n'est sans doute pas encore du niveau de NVDA, par exemple, qu'on doit installer en plus sur un système Windows.
Et ce NVDA est gratuit.
Et cet NVDA est gratuit et disponible en français, absolument. Donc voilà pour, en tout cas, ce cycle de conférences qui m'a marqué. Après, il y a eu beaucoup d'autres conférences. On y reviendra peut-être si on a encore 5 minutes.
Absolument. C'est pas dit qu'on ait encore beaucoup le temps, mais de toute façon, il nous reste quelques minutes à passer avec vous et on va les passer avec plaisir après une chanson.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Nous avons encore quelques minutes à passer en compagnie du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants. Fernando, il nous reste quelques petites choses à dire. Fernando Pinto da Silva, qui est avec nous pour représenter le CERTAM. Lui qui était, vous qui étiez, Fernando, au dernier salon de San Diego, au CISON.
Oui, alors beaucoup d'autres conférences très rapidement sur d'autres lecteurs d'écran, sur des systèmes Google, sur un certain nombre de choses voilà, que vous retrouverez également sur notre site internet www.certam-avh.com. On va peut-être juste parler un petit peu pour finir de la présence des Français peut-être à ce salon.
J'étais là parce que je vous ai beaucoup entendu parler des uns des autres, des Japonais, des Anglais, des Américains évidemment, normal ils étaient chez eux, des Coréens, mais peu de Français jusqu'alors.
Il y avait quelques Français évidemment. Alors sur le salon des exposants, on citera nos amis de chez Eurobraille, qui présentaient leur bloc-notes EasyTime et leur plage braille sur le salon. Donc c'était agréable de les retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Côté exposants, je crois que ce sont les seuls acteurs français qui étaient présents et qui montraient leur matériel.
Vous en attendiez d'autres ?
Pas forcément. Je dirais que c'est quand même... aujourd'hui, à ma connaissance, sans doute le dernier fabricant français de matériel très adapté. Maintenant, il se peut qu'il y ait d'autres gens qui arrivent sur le secteur, et on le souhaiterait vivement d'ailleurs. Sur les conférences, il y avait quand même des acteurs français qui donnaient des conférences, donc ça c'est important de les citer. Je pense notamment à Aurélien Lévy de la société Temesis, qui est une société en France qui travaille beaucoup dans le domaine de l'accessibilité des sites internet et qui donnait une conférence sur l'accessibilité numérique. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Et il y avait Nicolas Mazard de la société Acapella, dont on a parlé tout à l'heure, donc fabricant de synthèse vocale, pas que française, de synthèse dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues, et qui présentait un travail intéressant qu'Acapella a mené sur comment faire des voix sensibles, c'est-à-dire une voix qui va vous dire un texte de façon joyeuse, et le même texte, elle va pouvoir vous le dire de façon triste, de façon énervée, de façon un peu sadique, comme ça. C'était vraiment vraiment intéressant de voir ce qu'ils avaient commencé à développer. Donc là, eux, ils faisaient évidemment une présentation en anglais avec des voix anglaises et un travail donc avait été mené sur ces voix anglaises. Mais c'était intéressant de voir que là, du coup, les fabricants de synthèse commencent aussi non seulement à se dire il faut qu'on fasse des voix de qualité, mais pourquoi pas des voix qu'on puisse maintenant rendre
avec lesquelles, grâce auxquelles on puisse déceler les intentions qui sont enfermées dans certains textes.
Et ça c'était vraiment intéressant. Voilà pour les acteurs qui exposaient ou qui participaient à des conférences. Après il y avait évidemment beaucoup de gens comme nous de la VH qui parcouraient les allées. On a croisé des gens d'Access Solutions, de Cessia, qui étaient comme nous et qui venaient faire un tour, voir un petit peu ce qui se passait, quelles étaient les tendances. Mais c'est vrai que une présence française relative, on va dire, mais présence quand
même. Mais vaut mieux être peu nombreux et performants que plutôt être plus nombreux et puis que finalement qu'on dise finalement s'ils n'avaient pas été là, ça n'aurait rien changé.
Certainement. Donc voilà, pour un passage très très rapide sur le CISON 2013, c'est vraiment un temps très très fort de l'avis des aides techniques pour déficients visuels.
Ce salon, il est annuel.
Ce salon, il est annuel, ouais, tout à fait.
Donc il y a peu une réplique en France. Enfin, je veux dire, il y a un salon de cet ordre.
Ou un peu, ça serait exagéré.
Ah bon, quand je dis bien une réplique, je veux dire même en miniature.
En miniature, on aurait le salon autonomique à Paris les deux ans, qui aura lieu l'année prochaine. Mais très honnêtement, je veux surtout pas froisser les organisateurs du salon autonomique, mais c'est vrai qu'à côté du CISON, c'est pas tout à fait pareil.
Le salon autonomique, il est dirigé vers beaucoup, beaucoup de handicaps, j'allais dire.
Alors, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le CISON aussi de plus en plus, même si au départ, la démarche est inverse. C'est-à-dire qu'au départ, c'était surtout un salon déficient visuel qui maintenant est en train de s'ouvrir peu à peu à d'autres types de handicaps. Mais en France, ça serait ça, plus le forum européen de l'accessibilité numérique organisé par BrailleNet, en ce sens où, encore une fois, c'est aussi un salon d'exposants, mais de conférences, en fait. Donc, il faudrait que ça soit un peu un mix, vous voyez, de ce genre de choses. Voilà.
Très bien. Comme il nous reste quelques secondes, ce serait bien qu'on revienne au CERTAM.
Alors, le CERTAM, je vais rappeler rapidement les coordonnées. Donc, nous sommes situés à l'association Valentin Huy, car nous sommes un service de l'association Valentin Huy, rappelons-le. Nous sommes joignables au 01 44 49 27 27 et demandez le poste 25 74 ou par courriel courrier électronique à l'adresse certam@avh.asso.fr ou sur notre site internet www.certam-avh.com.
Parfait. Fernando se dit au mois prochain.
Au 16 avril, absolument.
Vous avez déjà une petite idée de ce dont vous nous parlerez ?
Je pense qu'on va vous parler d'un téléphone accessible sous Android. Voilà, il y a une petite couche applicative et matérielle supplémentaire.
Comme moi, j'en tiens une petite couche également. Je serais très heureux, je serais un peu une connaissance.